Quelle est la question que les enfants posent le plus à leurs parents? Surtout quand ils ont 3 ans à peu près. 3 ans, 4 ans. C'est une question qui épuise les parents.
Pourquoi?
Combien de fois ils l'ont posé les enfants? Et pourquoi si, et pourquoi ça, et pourquoi on fait ça, et pourquoi on va là, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi? Quel parent ne s'est jamais exaspéré au bout d'un moment? Alors au début on joue le jeu, on répond. Puis au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait?
Parce que c'est comme ça.
Parce que c'est comme ça. Voilà, alors on essaye de rester poli avec nos propres enfants, mais l'idée est qu'il y a un peu de ça. Pourquoi? Alors Job, c'est pas un enfant, mais ça aussi, ça a été question préférée. Ça a été sa question préférée envers Dieu pendant quasiment tout le livre de Job. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Dieu, explique-moi. Pourquoi? Dimanche dernier, Bernard Rousseau de Carpentras est venu et a enseigné sur Job 1 et 2, le tout début de l'épître de Job. Et il nous a montré comment Job était un homme intègre, irréprochable, mieux que nous. Et pourtant, qui a subi un certain nombre d'épreuves, plus ou moins grave, plus ou moins terrible, encore une fois, plus que nous tous réunis, et que Job, en cela, il est resté intègre et irréprochable. Ça a été, le fait de voir Job fidèle dans l'épreuve a été un encouragement dimanche dernier. Et entre le chapitre 2, sur lequel s'est arrêté Bernard, et nous aujourd'hui, on va reprendre au chapitre 38, donc j'accélère un tout petit peu, mais il y a 36 chapitres, au milieu, c'est un interminable dialogue de sourds. Alors vous pouvez lire ça, c'est un peu redondant. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des amis, 3 amis qui viennent voir Job et qui essayent de le consoler, qui essayent de l'encourager, mais qui le font de manière assez maladroite et disent d'une manière ou d'une autre, mais si t'arrive ça, à vous, t'as fait quelque chose, c'est pas possible. T'as sûrement dû pécher, dis-moi l'erreur que t'as fait. Et ils essayent de cuisiner Job pour qu'il trouve quelque chose à dire. Et Job, il dit, ben non, il n'arrive pas à comprendre. Il refuse de dire qu'il mériterait cette punition, cette épreuve. Et voilà, et on tourne en rond, et on tourne en rond. Et les 3 amis, chacun son tour, ils essayent. Et puis, on a l'impression que si Dieu n'était pas intervenu au chapitre 38, on y serait encore. Job serait encore avec ses amis en train de dialoguer. Mais aujourd'hui, on va regarder les 4 derniers chapitres. On va pas les lire en entier. Les 4 derniers chapitres de Job. Et on voit Dieu qui intervient, qui met fin à ce dialogue de sourds. Et on va voir que première partie, et je te laisse appuyer Rémi, première partie, c'est que malgré nos pourquoi, malgré nos questions, malgré tous nos efforts, il y a une réalité, c'est que nous ne pouvons pas comprendre Dieu. Et je vais vous lire quelques versets de Job 38 à la fin de 41. Donc je vous donne les références, mais bon voilà, j'ai pris des extraits pour résumer, sinon la lecture serait un peu longue. Donc je commence chapitre 38. Dieu qui intervient et donc qui met fin à ce dialogue de sourds entre Job et ses 3 confrères. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et lui dit « Qui est celui qui obscurcit mes plans par des discours dépourvus de savoir? Mets donc une ceinture autour de la taille comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. » Verset 4 « Alors où étais-je quand j'ai fondé la terre? Déclare-le puisque tu es si intelligent. Qui a fixé ces dimensions? Tu le sais, n'est-ce pas? Ou qui a déplié le ruban à mesurer sur elle? Et sur quoi ces bases reposent-elles ? » Ça continue, je fais un gros accélérateur. Chapitre 39, verset 26, Dieu continue. « Et est-ce grâce à ton intelligence que l'épervier prend son vol et déploie ses ailes en direction du sud ? Est-ce sur ton ordre que l'aigle royal prend de la hauteur et place son nid sur ses sommets ?» Verset 40, chapitre 40, verset 3, Job comprend qu'il est... Voilà, bon, il commence à faire profil bas et il commence à dire... Verset 4, je ne fais pas le poids, que pourrais-je te répondre? Job, il commence à comprendre, mais Dieu insiste, et 40, verset 6, Dieu continue et répondit encore à Job du milieu de la tempête et lui dit « Mets donc une ceinture autour de ta taille, comme à Vaïom. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Voudrais-tu vraiment casser mon jugement? Voudrais-tu me condamner pour te donner raison ?» Verset 15. « Vois l'animal par excellence que j'ai créé tout comme toi. Il mange de l'herbe comme un bœuf. Vois, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il raidit sa queue comme un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes de bronze et ses membres sont pareils à des barres de fer. Il est le chef-d'œuvre de Dieu. » Voilà, vous pourrez lire ces trois chapitres-là en détail, mais voilà un court résumé de cette grande, de ce grand monologue quasiment de Dieu. Alors, Job avait posé 1000 questions à Dieu, ben Dieu lui en répond 10 000. Ben voilà, il lui en répond 10 000 et en gros, qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui répond, ben, c'est moi qui ai Dieu. Je suis seul Dieu. Un peu comme nous, donc avec les enfants, quand au bout d'un moment, il y a un de nos enfants qui nous exaspère, qui nous assaille de questions ou qui revendique plein de choses, qu'est-ce qu'on finit par dire? Oh, c'est qui le parent? Hein, on le fait ça. Et alors, hein, où étais-tu quand il a fallu rénover cette maison? T'étais là? Et cet ordinateur avec lequel tu te plains, c'est toi qui l'as acheté? Non? Bon, hein. Encore une fois, on essaye de se tenir, mais c'est un peu ce qu'il y a au fond de notre cœur. Tu me fais des reproches, mais bon, hein. Quand il fallait changer tes couches, c'était moi qui le faisais, hein. Et là, Dieu, dans un sens, il fait un peu pareil. Et il aurait eu mille raisons de montrer sa force et sa sagesse, et il décide de le faire, de se révéler en tant que créateur, en tant que maître de la création. Voilà, pour tourner court à la contestation. Nombreuses questions, 10 000 questions que pose Dieu à Job, et on s'entend bien que Dieu n'attend pas de réponse. Il n'attend pas que Job essaye de répondre aux questions. C'est rhétorique. Et il fait la comparaison, il décrit un animal, l'animal par excellence. Alors, selon la traduction, on ne sait pas trop ce que c'est, des fois c'est le mot Léviathan. C'est une sorte de mélange, d'après les descriptions qu'on a, on a deux animaux qui sont décrits dans Job 40-41, un mélange d'hippopotame et de crocodile. Vous l'avez vu, il a les fers, les reins. Voilà. Est-ce que tu oserais, c'est comme si Dieu disait à Job, est-ce que tu oserais t'attaquer à un animal? À cet animal-là, ben moi je l'ai créé. Toi t'en as peur, moi je l'ai créé. Qui est déjà allé à la ferme des crocodiles à Pierre Latte? Pas très loin d'ici, on y est jamais allé. Nous, ça fait à chaque fois qu'on passe sur l'autoroute, on se dit qu'il faudrait qu'on s'arrête. Mais voilà, des amis sont allés, ils nous ont raconté, comme je crois, si on y va vers 14h et quelques, à un moment, il y a la nourriture du... Voilà, il y a les soigneurs qui jettent la viande au milieu des crocodiles. Apparemment, ça vaut le... Voilà, un jour, on ira. Bon, qui d'entre nous aurait envie d'aller jouer, d'aller descendre dans la fosse aux crocodiles? Bon, a priori, si on tente l'expérience, on risque de finir en tant qu'apéro. Donc, ça serait une folie, personne d'entre nous n'oserait descendre dans cette fosse aux crocodiles. Et de même, affronter Dieu, est-ce que ce ne serait pas encore plus fou? Affronter un crocodile, bon, on va dire avec une armure, avec une épée, peut-être que je peux m'en sortir. Mais affronter Dieu, quelle folie! Quelle folie! Dieu seul est Dieu. Et c'est ce que répond Dieu. Dieu, je suis seul Dieu. Alors la réponse de Dieu, elle est un peu ferme. On pourrait la trouver un peu... Mais bon, elle a le mérite d'être claire. Je suis Dieu. Alors peut-être que nous, parfois avons la même attitude que Job. On voudrait avoir des réponses à nos questions. Pourquoi? 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 Alors peut-être que c'est pas ça que vous posez comme question, mais peut-être que vous reprochez un tout petit peu, et ça peut m'arriver aussi d'avoir permis à Dieu de permettre telle épreuve, de permettre à Dieu telle chose. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi tu ne m'as pas épargné telle épreuve? Pourquoi tu ne m'as pas facilité un peu la vie? Pourquoi je n'ai pas gagné à cet endroit-là? Pourquoi la guerre? Pourquoi la persécution? On en a parlé hier longuement avec Portes Ouvertes. Moi aussi, j'aimerais des fois savoir un peu plus pourquoi Dieu autorise cela, pourquoi il permet cela, pourquoi la vie n'est pas un peu plus facile ici-bas. On pourrait être tenté on pourrait être tenté de demander des comptes à Dieu. Pas besoin de s'appeler Job pour cela. On peut être tenté de demander des comptes à Dieu, de tout savoir, de tout vouloir comprendre. On pourrait aussi être tenté de dire à Dieu ce qu'il devrait faire. Oh, Dieu, ça serait, voilà, petit conseil, ça serait bien si tu pouvais m'accorder ceci, changer un tel, m'épargner tel problème, changer mon voisin, modifier, je ne sais qui, mon conjoint. Est-ce que c'est ça? On pourrait être tenté de faire cela. J'ai lu récemment un article où l'auteur disait « Dieu, ton travail, c'est de pardonner, c'est d'aimer et de restaurer, mais pas de juger. » Bon, c'est à nous de décider ce que Dieu a le droit de faire. Bon, j'étais intéressant. Je savais pas que c'était à nous que Dieu n'aurait pas le droit de juger parce que nous, voilà, dans ton job, Dieu, t'as le droit de faire ça. Et si Dieu a envie de juger, si Dieu a envie de juger certaines personnes, il a le droit. De quel droit on aurait le droit de lui dire, bon, ok pour ça, mais pas pour ça. Dieu seul est Dieu. On ne peut pas le comprendre. C'est pas à nous de le comprendre. C'est pas à nous de lui dire ce qu'il devrait faire. Mais si on s'en arrête là, il y a un petit goût quand même qui reste. Que faire alors de ça? Est-ce qu'il faut dans ces cas-là faire le deuil d'avoir un Dieu? Est-ce qu'il nous faut faire le deuil de connaître Dieu? Un peu comme un enfant dont le parent serait décédé, ou parti à l'autre bout du monde, ou disparu. Il y a un deuil à faire pour ces enfants-là. Bon, ben ok, je n'aurai jamais de parents, je ne connaîtrai jamais mon père, ma mère. Et il y a un deuil à faire. Est-ce que nous, il nous faut aussi faire, dans ces cas-là, le deuil de, bon, bah ok, bah Dieu est Dieu, plus puissant qu'un crocodile et qu'un hippopotame, écoute, bon, bah c'est bien, je me tais et puis je le connaîtrai jamais. Ou alors une galaxie où on voit des fois des images magnifiques avec des télescopes, on voit des galaxies, c'est magnifique, c'est beau, mais au fond de nous, on sait très bien qu'on pourra jamais y aller. C'est beau, mais bon, voilà. Comme ça. Est-ce que c'est ça avec Dieu? Est-ce que c'est ça la conclusion du livre de Job? Tais-toi et reste où tu es et laisse-moi tranquille. Est-ce que c'est ça la conclusion du livre de Job? Le chapitre 42 nous montre le contraire. Non, on ne peut pas comprendre Dieu. On ne peut pas saisir pleinement. On ne peut pas comprendre ce que fait Dieu. On n'est pas Dieu. Par contre, on peut le connaître personnellement. Et c'est ça la différence. Et je lis quelques versets dans Job 42 et la réponse de Job. Job répondit à l'Éternel, « Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Écoute-moi, je te parlerai, je t'interrogerai, tu me renseigneras. » Ok, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre. On ne peut pas comprendre Dieu, mais on peut le connaître. Et c'est ce qu'il y a de plus important. Premièrement, on peut connaître Dieu parce que Dieu, c'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui reste pas silencieux, distant, mais il parle longuement ici. On a quasiment un monologue de 3 chapitres de la part de Dieu. Dieu parle, Dieu s'exprime, Dieu veut rentrer en relation avec ses créatures. Il n'est pas là-haut, encore une fois, sur sa galaxie, à nous laisser dépatouiller. Et avec un... Non, Dieu parle. Et nous croyons que la Bible, nous chrétiens, nous croyons que la Bible est la parole de Dieu, par laquelle Dieu veut se révéler, veut dire ce qu'il attend de nous, qui il est. Dieu parle. C'est un Dieu de relation, ce n'est pas un Dieu conceptuel, je ne sais où. Dieu veut se faire connaître, veut qu'on sache qui il est. On n'est pas dans du mysticisme où ça serait à chacun de... Non, Dieu parle. Dieu parle, mais Dieu aussi, il sait... Écoutez, pendant 36 chapitres, il a laissé Job s'exprimer. Il a été plus patient que les 3 amis de Job qui étaient incapables de ne pas lui couper la parole pour l'accuser. Dieu sait écouter, qu'il est dur, et on le sait très bien entre nous, hein, qu'il est dur d'écouter quelqu'un qui souffre, parfois sans rien dire, en écoutant seulement sa souffrance, en ne donnant pas de conseils, mais seulement en écoutant. C'est dur à faire, hein. Et pourtant Dieu a su le faire, Dieu sait écouter. Et Dieu, en fait, il est l'ami parfait. Dieu est l'ami parfait que Job n'a pas su trouver dans ses trois confrères. Dieu est l'ami parfait qui veut rentrer en relation avec nous. Et finalement, Job a fait la plus belle des découvertes et des confessions de foi. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est chouette, hein ? Alors oui, non, Job ne comprendra pas tout ce que Dieu a permis dans ses épreuves. Il ne comprendra pas le pourquoi, comment. Oui, plein de choses lui échapperont et dépasseront son intelligence. Et de même pour nous. Mais malgré cela, il en arrive à cette profession de foi. Il peut connaître Dieu, il peut le voir de ses propres yeux. Avant cela, Job reconnaît qu'il avait seulement entendu parler de Dieu. Qu'il connaissait Dieu. Et il y a plein de personnes, de stars, nous aussi, dont on connaît, on a entendu parler. Qui connaît Zidane? On a tous entendu parler de lui. Ou Mbappé, on va prendre la génération suivante quand même, comme ça qu'il y en a pour toutes les générations. Non, attends, on va mettre Platini, Zidane, Mbappé, comme ça on a toutes, pas de jaloux, chacun a sa référence. Tout le monde en a plus ou moins entendu parler, on pourrait dans le domaine de la musique, mais qui d'entre nous les a vus, les connaît, a leur numéro de téléphone, peut leur parler? Vous voyez la différence entre... Et Dieu, il ne suffit pas d'avoir entendu parler de lui, de voir qui il est, grosso modo, de loin. Mais qui le connaît personnellement? Et là, ça nous pose une question à nous, à chacun d'entre nous. Est-ce que nous connaissons personnellement Dieu? Ou alors, est-ce que nous avons seulement entendu parler de lui? À travers nos parents, à travers notre conjoint, à travers notre église, voilà, où effectivement, bon, le dimanche matin, il y a quelqu'un qui est derrière le pupitre, là, qui nous fait un petit blabla, on entend parler de Dieu. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous connaissez personnellement Dieu? Parce que si vous avez seulement entendu parler de lui... Si vous avez seulement entendu parler de lui, c'est chouette, mais bon, ça ne sert pas à grand-chose. Maintenant que Job a compris qui est vraiment Dieu, il retrouve confiance, il retrouve espérance. Et il y a une anecdote, il y a quelques semaines de cela, je me baladais avec Johanna dans le Luberon, et il était 17h, la nuit allait tomber. Et moi, je commençais à réaliser que je ne reconnaissais plus trop le chemin. J'étais un peu perdu. Alors, je le cachais un petit peu, mais j'étais avec ma carte comme ça et je regardais où on était. Johanna, est-ce qu'elle avait peur? Elle n'était pas perdue, elle. Elle était avec son papa. Elle était avec son papa, donc elle n'était pas perdue. Alors oui, qu'on soit sur le chemin A, pour elle, elle n'est pas perdue parce qu'elle est avec son papa. Et moi, j'étais avec mon GPS en train d'essayer de retrouver le chemin, mais elle ne s'en rendait pas compte. Quand elle avait confiance en moi, elle avait confiance en moi, elle me suivait, elle n'était pas perdue. Moi, j'étais perdu, mais elle n'était pas perdue. Et Job, c'est ça qu'il est en train d'expérimenter. Certes, il y a plein de choses qui arrivent, mais maintenant qu'il a compris qu'il est avec Dieu et qu'il a vu Dieu, alors, entre guillemets, il n'est plus perdu. Est-ce que vous avez vu la deuxième réaction de Job quand il rencontre Dieu, quand il voit Dieu? C'est quoi sa deuxième réaction? La première, c'est de confesser, voilà, j'avais entendu parler, mais ils t'ont vu. Et deuxième réaction, la fin du verset, je reconnais mes torts et sur la poussière et sur la cendre. Autre réaction, quand il voit Dieu en face, alors ça lui renvoie sa propre faiblesse et son propre péché. On ne peut pas voir Dieu sans, par miroir, comprendre à quel point on est faible et pécheur. Lui qui pourtant, Job 1, était irréprochable. Job, il est mieux que nous. Hein. Et même lui, quand il regarde Dieu, il comprend qu'il est pécheur et faible. Quand on voit Dieu, tout paraît fade. C'est comme si vous, ne le faites pas, mais c'est comme si vous regardez le soleil. Comme si vous regardez le soleil, ne le faites pas encore une fois, mais... Et après, vous regardez, tout paraît fade, tout paraît, ce qui paraissait brillant d'un seul coup paraît fade, si vous avez regardé le soleil. Job se comprend soudainement pécheur et faillible. Il reconnaît ses torts, et à ce moment-là, nous on sait, la parole de Dieu nous dit, et on le sait, on le dit ici dimanche après dimanche, que Dieu aime pardonner le pécheur quand celui-ci se repent. Et quand Job reconnaît, se comprend qu'il est faillible, qu'il est pécheur, on sait que Dieu aime pardonner. Ça, c'est 1 Jean 1,9 dans la fin du Nouveau Testament. Ce beau verset qui nous dit que si nous reconnaissons nos péchés, alors il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout mal. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de tout mal. C'est ce que Dieu a fait avec Job et c'est ce que Dieu a fait avec nous. Et il l'a fait de manière ultime en Jésus-Christ. Et c'est tout le sens de la Sainte Cène que l'on prendra dans quelques instants après la prédication, où on affirme effectivement le prix que ça a coûté à Dieu pour pouvoir pleinement nous pardonner. Et car Dieu prend plaisir aux pécheurs repentants. Alors, conclusion de cette deuxième partie. Oui et non, on ne pourra jamais comprendre pleinement Dieu. N'essayez pas. Lui seul est Dieu. Mais par contre, nous pouvons le connaître personnellement, recevoir son pardon, et en conséquence, troisième partie, espérer en lui. Nous ne pouvons pas comprendre Dieu, mais nous pouvons le connaître, et nous pouvons espérer en lui. Et je lis quelques versets dans Job 42, la fin, le verset 12. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job beaucoup plus que la première. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 ânesses. Il eut aussi 7 fils et 3 filles. Il appela la première Gemina, la deuxième Ketsia, la troisième Keren Apuk. Dans tout le pays, on ne trouva pas d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut 140 ans. Il vit ses fils et les descendants de ses fils jusqu'à la quatrième génération. Puis il mourut âgé et rassasié de jours. Le livre de Job finit comme une belle histoire. Il vécut heureux et eut beaucoup d'enfants. C'est pas un conte de fées, mais c'est une réalité. Il vécut heureux et eut beaucoup d'enfants. Dieu rétablit Job. Plein d'enfants, plein de belles filles. Apparemment, c'était les plus belles filles du pays. Bon, moi, je trouve que les filles Leplay, elles sont aussi pas mal, mais c'est peut-être un peu subjectif. Mais en tout cas, voilà, Dieu bénit Job. Dieu se met en colère aussi, on l'a pas vu juste avant, mais envers les amis de Job qui ont accusé Job. Dieu est en colère contre les trois amis qui l'ont plus accablé que soutenu. Mais par contre, Dieu ne se met pas en colère contre Job et il l'appelle même mon serviteur. Même si celui-ci l'a harcelé de questions, même si celui-ci a peut-être douté de son amour, n'empêche, on a le droit de questionner Dieu, on a le droit de venir à lui avec nos doutes, avec nos failles. Verset 9, Dieu, l'Éternel, eut de la considération pour Job. Waouh ! L'Éternel eut de la considération pour Job. Est-ce que Dieu a béni Job parce que celui-ci s'était repenti ? Est-ce que c'est ça la morale de l'histoire ? Repentez-vous et vous aurez le droit à des chameaux et des ânes. Peut-être quelqu'un d'entre nous qui est intéressé, qui est un grand. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que Dieu a béni Job parce qu'il s'était repenti ? Et si c'était le cas, ça voudrait dire que les trois amis avaient raison. Repends-toi et ta souffrance sera finie. C'était ce que disaient les trois amis à Job. Donc si c'est le cas, ça veut dire que les trois amis avaient raison. Repends-toi et Dieu te bénira. Dans ce dernier chapitre, chapitre 42, c'est la pure grâce de Dieu, la pure générosité de Dieu. Ce dernier chapitre est là par pure grâce. Dieu est libre de bénir qui il veut et quand il veut. Et ce chapitre aussi nous montre que Dieu ne prend pas plaisir à la souffrance. Dieu ne prend pas plaisir à la souffrance, il se plaît au contraire à être généreux comme un père aimant. Et pour nous, est-ce que nos souffrances, est-ce que nos épreuves prendront fin demain, garantie ? Est-ce que nos souffrances prendront fin demain ? Est-ce que nous aussi on aura le droit à notre chapitre 42 avec chameaux et brebis ? Peut-être pas demain. Mais Dieu ne nous garantit pas que demain nous serons bénis comme ça. C'est ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité, qui dirait, ben voilà, repends-toi et tu vas avoir des chameaux, une voiture, un boulot, une vie parfaite. Est-ce que c'est ça l'évangile ? Demandez à Jésus, demandez à l'apôtre Pierre, demandez à l'apôtre Paul, si c'est ça leur expérience de l'évangile. Par contre, une chose est sûre, peut-être que nous ne verrons pas de notre vivant ce chapitre 42 d'abondance et de bonté. Mais par contre, un jour, nous aurons Apocalypse 21, un jour Dieu rétablira toutes choses. Alors peut-être pas demain, peut-être pas après-demain, mais par contre, une chose qui est sûre, c'est que tôt ou tard, il le fera. Et écoutez ça, c'est le plus beau verset de la Bible, Apocalypse 21, verset 4, le plus beau verset, écoutez. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car tout ce qui était avant aura disparu. Pas beau ça ? La mort ne sera plus, ni deuil, ni cri, ni douleur, ni virus, ni famine, ni persécution, ni chômage, ni solitude. Tôt ou tard, Jésus reviendra, jugera ceux qui se sont opposés à lui. Il a le droit de le faire, c'est pas à nous de lui dire ce qu'il doit faire. Et il sauvera les siens et il mettra fin à toute souffrance. Dieu ne prend pas plaisir à la souffrance. Dès Genèse 3, quand ça a commencé à mal se passer, il a mis en place ce grand plan de salut, cette grande histoire de la Bible qu'on est en train de voir en groupe de partage, pour justement, pour arriver à ce jour où tout sera rétabli et il n'y aura ni deuil, ni cri, ni souffrance. Dieu ne prend pas plaisir à la souffrance. Mais en attendant, il se tient aux côtés de ceux qui lui font confiance. En attendant ce beau jour où nous verrons Dieu face à face, nous sommes déjà bénis. Non pas avec des chameaux, non pas avec des brebis, mais avec son Saint-Esprit. Comme un gage, la parole nous dit que c'est le gage, une avance sur notre héritage. Un peu comme si, voilà, tu vois, une avance, un avant-goût de la plénitude de Dieu en nous. Imaginez Dieu qui vient en nous en attendant le jour où il nous appellera à lui. Maintenant, il vient en nous en attendant justement ce beau jour. Alors en conclusion de ce grand livre de Job qu'on a parcouru en deux dimanches, ça, c'était une série efficace, hein, 42 chapitres, deux prédications. Quelle conclusion de cela ? Pourquoi la souffrance ? Pourquoi le mal ? Pourquoi la guerre ? Pourquoi la persécution ? Pourquoi le chômage ? Pourquoi les problèmes ? Pourquoi les partiels à réviser ? Pourquoi ? La grande question que tous se posent. Alors, il n'y a pas vraiment de réponse avec le livre de Job. Si vous vouliez une belle réponse intellectuelle, philosophique, théologique, le livre de Job se finit sans vraie réponse. Il y a une seule information qui nous est donnée, c'est que la souffrance, votre épreuve, que la souffrance n'est pas due à la rétribution individuelle, comme une punition spécifique pour un tel qui aurait raté ça, pour un tel qui n'aurait pas fait ci, pour un tel qui aurait raté ça. C'est comme les trois amis disaient à Job. C'est la seule réponse, au final, vraiment, avec laquelle on finit ce livre. Souvenez-vous de Luc 13, avec la tour à Siloé, qui était tombée sur 18 malheureux. Est-ce que ces 18 malheureux étaient plus pécheurs que les autres ? Non, dit Jésus. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez de même. Vous avez déjà vu ça en Luc 13. Donc pas de vraie réponse philosophique sur pourquoi la souffrance. Mais par contre, il y a une réponse pratique, une solution pratique face à cela, la présence de Dieu à celui ou à celle qui s'adresse à ceux qui se tiennent auprès de lui et qui s'en remettent à lui. Voilà la réponse que Dieu donne, en tout cas avec le livre de Job, la présence de Dieu à nos côtés pour tous ceux et celles qui s'en remettent à lui en attendant le beau jour où tout cela, toute souffrance, toute mort, tout deuil prendra fin. Amen. Je vous invite à la prière. Tu es créateur, Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Pardonne-nous quand nous voudrions te comprendre, quand nous voudrions te décortiquer, quand nous voudrions te mettre en boîte, quand nous voudrions te réduire à un concept ou je ne sais pas, ou nous, alors nous voudrions te souffler à l'oreille ce que tu devrais faire pour nous. Toi seul est Dieu. Et voilà, et face à cela, Nous voulons t'exprimer notre reconnaissance parce que malgré tout, on peut te connaître, on peut être dans ta présence, on peut s'approcher de toi, on peut être en relation avec toi, te parler, t'écouter. Merci parce que tu es ce Dieu de relation que l'on peut connaître personnellement. Merci parce que même si nous sommes, nous, de notre côté, faillibles et pécheurs, bah, tu nous pardonnes, tu nous acceptes, tu as donné ton Fils Jésus-Christ pour que nous puissions librement venir à toi, malgré notre imperfection. Merci pour ce beau livre de Job qui nous rappelle aussi un jour qu'on pourra te voir, qu'on verra ta gloire et nos yeux verront ta face, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Nous nous réjouissons de ce beau jour où toute souffrance prendra enfin. Et en attendant, apprends-nous à rester avec toi, à rester fidèle et à nous remettre à toi chaque jour. Amen.